Bonsoir à toutes et à tous. Après ces 9 jours de méditation sur le mystère de la souffrance, nous pouvons désormais avec lucidité que celle-ci demeure et demeurera toujours pour la raison humaine une énigme. Pourtant, au fil de cette neuvaine, nous avons appris à entrer dans cette énigme plutôt qu'à la fuir. Jour après jour, nous avons tenté d'en approcher le mystère à la lumière de la foi, de l'expérience humaine et de l'Écriture sainte. Au cours des 4 premiers jours, nous avons d'abord exploré la souffrance. Nous avons d'abord exploré que la souffrance ne se laisse pas réduire à la douleur. Elle est un symptôme, une privation d'un bien dû, un appel de sens. Nous avons exploré la souffrance dans sa densité humaine en distinguant son enracinement biologique, psychique, relationnel, social et spirituel, avec son poids écrasant, son lien intime dans les relations interpersonnelles et sa racine temporelle. Mais nous avons aussi et surtout réaffirmé que si la personne humaine est meurtrie de toutes parts, il y a une zone intérieure impénétrable en elle, comme un sanctuaire où Dieu continue d'habiter, que rien ne peut altérer et qui rend à la personne souffrante toute sa dignité. Nous avons aussi découvert que la souffrance révèle la profondeur de notre liberté blessée et la rupture de communion qui traverse l'humanité depuis l'origine, rupture avec Dieu, avec autrui et avec soi-même. Et tout au long de ces méditations, la figure de la petite Thérèse a accompagné notre chemin comme en filigrane discret mais lumineux, témoignant qu'au cœur même de la nuit, des ténèbres, peut se lever une espérance. Puis, les 5e et 6e jours nous ont conduits au cœur de la révélation biblique. Nous avons laissé la révélation divine éclairer cette énigme. L'ancienne alliance, au 5e jour, nous a montré que la souffrance-douleur, comme une des conséquences de la rupture originelle, son lien étroit avec la liberté, son rôle de remède et de purification, avec 2 grands personnages de l'histoire sainte, Job et Isaïe. Avec Job, nous avons affronté le scandale de l'innocent qui souffre, et avec le 4e chant du serviteur souffrant du livre d'Isaïe, nous avons entrevu que la souffrance peut devenir porteuse d'espérance. Par ses blessures, nous sommes guéris. Enfin, le 6e jour, avec la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament, nous avons contemplé l'attitude de Jésus dans sa compassion, son empathie, sa proximité avec ceux et celles qui sont dans la douleur et qui souffrent dans leur âme et dans leur corps. Et nous avons proposé la problématique de la question du mal en lien avec la souffrance. Nous avons réaffirmé sans compromission que le mal n'est pas opposé symétriquement au bien, comme une condition nécessaire à la création. Le mal n'est pas une réalité créée par Dieu. Avec la parabole de l'ivraie et du bon grain, nous avons vu que le mal s'origine dans l'intention d'un ennemi personnel à Dieu, qui est l'ange déchu, et qui introduit délibérément la confusion ou le mélange. Nous avons aussi contemplé la manière dont le Christ a vécu la souffrance humaine, lui qui, sans péché, a librement porté dans son corps et son âme les péchés de tout homme, dans sa passion jusqu'à la mort sur la croix. Et nous avons terminé avec Thérèse, qui, pour entrer dans la contemplation de Jésus, se tournait sans cesse vers l'Évangile, son livre d'or et son plus cher trésor, qu'elle méditait chaque jour dans l'oraison. Sa fréquentation quotidienne de l'Évangile lui a permis de non seulement découvrir des vérités sur Jésus, mais surtout de vivre de sa présence vivante, qui a peu à peu transfiguré toute sa manière de souffrir et a entré dans une communion d'amour avec lui. Avec le septième jour, nous sommes parvenus, pourrait-on dire, au sommet de notre méditation avec le mystère de la substitution rédemptrice. Le Christ, vrai Dieu et vrai homme, a pris sur lui le poids du péché et de toutes les souffrances humaines pour nous ouvrir un chemin de salut. En effet, les souffrances physiques et psychiques peuvent avoir une cause spirituelle et, dans la communion des saints, s'opèrent de profonds échanges comme des transferts et partages de souffrances. Nous nous portons les uns les autres. C'est pourquoi nous ne souffrons jamais seuls. Il est illusoire de penser que nos épreuves nous isolent complètement. Avec le Christ Jésus et dans la communion des saints, nos souffrances sont partagées, portées et offertes ensemble. Hier, nous avons compris que la souffrance peut être soit une régulation naturelle et salutaire à la vie humaine, soit le signe d'un dérèglement plus profond, touchant le corps, le psychisme, la vie sociale et la vie spirituelle. À la lumière de la Genèse, nous avons vu que le démon, l'ange déchu des origines, cherche, depuis notre création, à introduire dans l'intelligence humaine la confusion sur le bien et le mal, en poussant l'homme à se séparer de Dieu pour devenir lui-même la mesure du vrai et du faux. Ainsi, toute souffrance appelle à discerner ce qui conduit à la vie et à la vérité révélée dans le Christ Jésus et ce qui enferme l'homme dans l'erreur, la confusion et l'éloignement de Dieu. Nous entrons maintenant dans notre neuvième méditation, celle de la souffrance habitée par l'amour et transfigurée par le Christ. Pour cela, nous nous mettons à la suite de petite Thérèse, dont la vie constitue une lumière singulière pour notre temps. Mais pour comprendre pleinement la portée de son témoignage, il est précieux de l'éclairer par l'enseignement de saint Jean-Paul II dans Salvici Doloris, texte majeur du magistère contemporain sur la souffrance humaine. Dès le début, dans cette lettre apostolique, Jean-Paul II affirme une vérité décisive. La souffrance humaine atteint son sommet dans la passion du Christ. Pourquoi cette affirmation ? Parce que la souffrance du Christ n'est pas seulement une souffrance parmi tant d'autres. Elle devient la clé interprétative de toute souffrance humaine. En elle, la douleur n'est plus absurde et encore moins punitive. Elle devient comme un lieu de révélation de l'amour. C'est précisément ce que nous voyons en petite Thérèse. Avant son épreuve contre la foi, Thérèse apparaît comme une âme exceptionnellement préservée du péché. Elle a été très peu touchée par le péché personnel. Âme virginale, elle a été préservée de façon exceptionnelle et sa conscience de cette innocence est elle-même exceptionnelle. Ce n'est ni un défaut ni une limite, mais un trait original de sa sainteté, que l'on peut comparer dans son modus vivendi à celle de la Vierge Marie. Ailleurs, Thérèse exprime avec une justesse parfaite cette grâce reçue en se comparant avec Marie-Madeleine, la pécheresse convertie. Elle n'hésite pas à affirmer, je cite, « Jésus m'a plus remis qu'à Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. » Cette parole peut surprendre, mais elle rejoint profondément la théologie de la grâce prévenante. Elle signifie que la miséricorde de Dieu ne se limite pas à pardonner, elle peut aussi préserver. Jean-Paul II éclaire cette réalité lorsqu'il écrit que la souffrance n'est pas seulement liée à la faute personnelle, mais qu'elle peut être assumée dans une logique de salut. Cette innocence n'est pas une ignorance du mal, mais une configuration précoce à la pureté de la Vierge Marie. Cependant, cette absence de péché personnel ne l'exempte pas de la souffrance. Au contraire, elle l'y dispose d'une manière plus radicale, par la voie de la substitution. La souffrance de l'innocent est le sommet de la contradiction apparente du dessein divin. Pour la raison humaine, que le juste souffre pour l'impie semble une bizarrerie, une injustice. Pourtant, dans l'économie de la grâce, cette solidarité est la clé de la rédemption. C'est l'écho du serviteur souffrant d'Isaïe. Je cite, « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées et nos douleurs dont il s'était chargé. » Et c'est par ses plaies que nous sommes guéris. Saint Thomas d'Aquin enseigne que la charité rend les membres du corps mystique si solidaires que la satisfaction de l'un peut profiter à l'autre. Thérèse porte cette doctrine à son paroxysme. Son innocence devient le réceptacle des ténèbres d'autrui. Depuis son premier enfant, le criminel Pranzini, elle se sent profondément proche des plus grands pécheurs. C'est dans son épreuve de la foi que Thérèse entre pleinement dans ce mystère. Thérèse affirme clairement que ce péché, bien qu'il ait pénétré en elle, reste toujours le péché des autres et jamais le sien. Autrement dit, Thérèse ne souffre pas d'abord à cause de son péché personnel, mais pour le salut des pécheurs. Ainsi, Thérèse ressemble à Jésus qui, tout en étant parfaitement sans péché, donc Jésus, est devenu péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Jean-Paul II commente précisément cette dimension dans Salvici Doloris. Le Christ a ouvert la souffrance à l'homme, a ouvert sa souffrance à l'homme, afin que l'homme puisse compléter ce qui manque aux souffrances du Christ. La croix n'est pas incomplète, elle contient la plénitude de la rédemption. Ce qui manque, entre guillemets, c'est seulement son application aux personnes et la participation libre de l'humanité à cette œuvre déjà achevée dans le Christ. Dieu veut que l'homme coopère librement à son œuvre de salut. Ainsi, Thérèse ne fait pas que souffrir, elle entre dans une logique de communion rédemptrice. Elle devient à sa manière, participante du mystère du Christ. Elle participe à ce mystère de la substitution, elle s'approprie le plus intimement possible le péché des incroyants, afin qu'ils reçoivent la lumière et soient sauvés. C'est ce même mouvement qui éponge le péché, comme a fait Jésus. Pour eux, elle devient en quelque sorte péché contre la foi, afin qu'ils deviennent justice de Dieu par la foi en Jésus. Il s'agit ici non des incroyants sans faute de leur part, mais de ceux qui, par un péché contre la foi, passent volontairement de la lumière à l'obscurité. Thérèse se trouve ainsi au cœur du drame de son temps, la déchristianisation en acte. Elle le dit dès le début du manuscrit C. Je cite « Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui, par l'abus des grâces, perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. » L'expression clé de Thérèse, les ténèbres, est beaucoup plus forte que celle de nuit. Dans l'Évangile, elle désigne la puissance du péché. Un peu plus loin, elle nous donne une description plus complète de ces ténèbres. Je la cite à nouveau. « Les brouillards qui m'environnent deviennent plus épais. Ils pénètrent dans mon âme et l'enveloppent de telle sorte qu'il ne m'est plus possible de retrouver en elle l'image si douce de ma patrie. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon âme, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, me disent en se moquant de moi, « Tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums ? Tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ses merveilles ? Tu crois sortir un jour de ces brouillards qui t'environnent ? Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit encore plus profonde, la nuit du néant. » Ces ténèbres du péché contre la foi touchent sa vie de façon si intime qu'elle emploie le même vocabulaire qu'à propos de l'amour miséricordieux. « L'amour me pénètre et m'environne », dira Thérèse. Mais à présent, ce sont les ténèbres qui environnent Thérèse et pénètrent dans son âme. Pour elle, comme pour Marie au pied de la croix, ce n'est en aucune manière l'effondrement de la foi. Avec Marie, elle se tient debout, près de la croix, celle, elle, dont la foi n'a pas chancelé. Surtout, cette foi de Marie et celle de Thérèse est soutenue par le plus grand amour envers Jésus et envers les pauvres pécheurs. Thérèse le dit avec une beauté bouleversante, et c'est alors que la réalité de son bonheur et de sa joie réapparaît. Le bonheur et la joie de l'amour de Jésus. Je cite Thérèse. « Je cours vers mon Jésus. Je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Aussi malgré cette épreuve qui m'enlève toute jouissance, je peux cependant m'écrier, Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. Car est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour votre amour? Plus la souffrance est intime, moins elle paraît aux yeux des créatures, plus elle vous réjouit, ô mon Dieu. Mais si par impossible, vous-même deviez ignorer ma souffrance, je serais encore heureuse de la posséder, si par elle, je pouvais empêcher et réparer une seule faute commise contre la foi. Au comble de sa souffrance, Jésus n'était pas malheureux, comme l'affirme saint Anselme. Et Thérèse, alors même qu'elle décrit la profondeur de sa souffrance, déclare qu'elle est heureuse, comblée de joie. Le mystère de la souffrance du Christ et de la souffrance chrétienne est celui de la plus grande souffrance habitée par l'amour et transfigurée par un plus grand amour, celui de Jésus crucifié. Cela exclut tout dolorisme. Il n'y a jamais de dolorisme chez les saints, car la plus grande douleur est illuminée par le plus grand bonheur qui est celui de l'amour de Jésus. Le moment charnière de cette transfiguration de la souffrance survient donc en avril 1896 au cœur des fêtes pascales. Alors qu'elle aspire à la lumière, les ténèbres les plus denses envahissent son intelligence. L'âme est privée de toute perception de Dieu, non par un abandon divin, mais par un excès de lumière qui aveugle les facultés naturelles de Thérèse. Thérèse ne souffre de ne pas voir pour que d'autres puissent voir. La souffrance est ici radicalement transfigurée. Elle perd son caractère d'injustice pour devenir un acte pur de charité substitutive. Jean-Paul II éclaire cette expérience en affirmant que la souffrance a une dimension mystérieuse qui dépasse la simple explication rationnelle. Je cite, « La souffrance humaine constitue presque un monde à part. » Alors pourquoi ces ténèbres? Parce que la foi la plus pure n'est pas une évidence sensible, mais un acte libre de l'intelligence. La foi de Thérèse, comme Marie au pied de la croix, ne disparaît pas. Elle devient, osons-le dire, audacieuse. Le point central de Salvici Doloris se trouve ici. Je cite Jean-Paul II. « Dans la souffrance se cache une force particulière qui rapproche l'homme du Christ. La souffrance unie à l'amour devient participation à la vie divine. Jean-Paul II insiste, la souffrance, plus que toute autre chose, rend présente dans l'histoire de l'humanité la force de la rédemption. Cela exprime en réalité que la souffrance devient féconde lorsqu'elle est unie à l'amour du Christ. Le sommet de la pensée thérésienne sur la souffrance réside dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Traditionnellement, des âmes généreuses s'offraient comme victimes à la justice divine pour détourner les châtiments dus aux pécheurs. Thérèse, avec une intuition géniale du cœur de Dieu, comprend que la justice divine, si grande soit-elle, est moins ardente que la miséricorde. Elle constate que l'amour miséricordieux est méconnu, voire même repoussé. Elle demande alors à Dieu de déverser en son âme les flots de tendresse de la miséricorde infinie que les hommes refusent. Elle ne s'offre pas à la justice pour être punie à la place des pécheurs, mais à l'amour miséricordieux pour y être consumée. Dès lors, la souffrance change de nature. Elle n'est plus une transaction juridique, mais une blessure d'amour. La maladie, la tuberculose qui la dévore, la suffocation physique, tout devient le combustible de cet embrasement intérieur. Thérèse ne demande pas la souffrance par la douleur pour elle-même ou l'inverse, car la souffrance en soi n'est pas à rechercher, mais elle demande que l'amour de miséricorde soit victorieux à travers sa faiblesse. Nous reconnaissons ici l'application parfaite de la parole que le Seigneur adresse à saint Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens. Ma puissance se déploie dans la faiblesse. La souffrance interroge souvent notre capacité à tenir, à être fort, à être digne. Thérèse brise cette idole du stoïcisme chrétien par sa petite voix. À la fin de sa vie, épuisée, elle répond à une sœur qui admire sa patience, et Thérèse répond : Je n'ai pas encore eu une minute de patience. Ce n'est pas ma patience à moi. On se trompe toujours. Elle reconnaît que sa patience est un don continu de Dieu, une grâce qui passe à travers son impuissance radicale. Tandis que saint Thomas d'Aquin rattache la patience à la vertu de force, Thérèse la situe au cœur même de sa petite voix en faisant d'elle le beau fruit de l'amour et l'abandon confiant dans la petitesse et la faiblesse, et chantera le parfait abandon, ce doux fruit de l'amour. Pour elle, la souffrance est l'occasion de se jeter dans les bras de Dieu avec une confiance absolue. Elle ne cherche pas à gravir la montagne de la perfection par ses propres forces, ce qui serait une forme d'orgueil spirituel, comme une idéologie de la sainteté. Elle préfère l'ascenseur des bras de Jésus. La souffrance, en nous dépouillant de nos illusions de maîtrise, nous rend plus aptes à recevoir Dieu. Plus l'âme est dépouillée de ses propres mérites, plus elle peut être comblée par l'océan de la miséricorde. C'est le sens de la béatitude des pauvres en esprit. La souffrance est comme le ciseau qui sculpte cette pauvreté spirituelle. Dans le manuscrit B, véritable chef-d'œuvre de Thérèse, dans une longue prière à Jésus écrite le 8 septembre 1896, sixième anniversaire de sa profession, elle atteint le sommet de sa doctrine. Écoutons Thérèse. « Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié, « Ô mon Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvé. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église. Et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. Cette intuition rejoint directement l'anthropologie chrétienne. L'homme n'est pas fait d'abord pour éviter la souffrance, mais pour aimer. Jean-Paul II confirme « L'homme ne se trouve pleinement que dans le don sincère de lui-même. Seule la charité donne sens à la souffrance. Sans l'amour, elle écrase. Avec l'amour, elle devient offrande, comme le dit saint Jean, Dieu et amour. Jean-Paul II souligne que la souffrance introduit l'homme dans une profondeur de compréhension inaccessible autrement. La souffrance est présentée pour libérer l'amour, pour libérer l'amour. La souffrance dépouille l'homme de ses illusions et l'ouvre à l'essentiel de la relation à Dieu. Thérèse insiste avec force, « Quand même j'aurai tous les péchés du monde, je me jetterai dans les bras de Jésus. » Cette confiance rejoint le cœur de l'Évangile par le cri de Jésus à la croix, « J'ai soif ». Jean-Paul II explique que la croix est la révélation suprême de la miséricorde. Je le cite, « Dans la croix du Christ s'est accomplie la rédemption par la souffrance. » La croix montre que Dieu ne supprime pas la souffrance de l'extérieur, il la transforme de l'intérieur. Les derniers mois de Thérèse sont une agonie qui récapitule tout son message sur la souffrance. Thérèse étouffe, elle ne peut plus prier. Elle est assaillie par des tentations de suicide causées par les douleurs et suggérées par les anges de ténèbres. Mais c'est précisément là que l'espérance brille de son éclat le plus pur. L'espérance chrétienne, qui est loin d'un optimisme de tempérament, est une vertu théologale qui s'appuie sur la fidélité de Dieu, alors même que tout sentiment de sa présence a disparu. Thérèse comprend alors que sa mission ne fait que commencer. Je sens que je vais entrer dans le repos. Mais je sens surtout que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Cette promesse est une réalité déjà à l'œuvre dans le cœur de celui et celle qui souffre avec le Christ. L'évangéliste saint Jean, dans l'Apocalypse, nous livre la vision finale de cette espérance transfigurée. Et il, donc Jésus victorieux de la mort, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Quand la souffrance s'interroge, l'amour de Dieu répond par l'espérance. Ce thème de notre neuvaine trouve sa résolution dans le regard de Thérèse à la lumière du Christ Jésus. La souffrance ne trouve pas sa réponse dans un « pourquoi » que l'intelligence pourrait se saisir, mais dans un « pour qui » que le cœur est appelé à vivre et à offrir. Elle est le lieu où Dieu se manifeste comme sauveur, qui plonge avec nous dans l'abîme de la souffrance pour nous en tirer. Alors, ne craignons pas nos souffrances, nos douleurs, ne craignons pas nos larmes. Comme Thérèse, ouvrons les mains pour recevoir la grâce de l'instant présent. Si le Seigneur trouvait une âme plus petite que la sienne, il se plairait à la combler de plus grandes faveurs encore, dit Thérèse. Nous sommes de ces âmes, nous sommes de ces âmes. La souffrance, si lourde soit-elle, est le terreau de notre futur héritage de gloire. Que Notre-Dame des Victoires, qui autrefois a souri à Thérèse de Lisieux et l'a relevée de sa maladie d'enfance, nous accorde aujourd'hui ce même sourire, signe de l'espérance. Ce sourire ne nie pas la douleur, mais il la transfigure en l'enveloppant de la certitude de la résurrection. La souffrance n'est pas le dernier mot. Elle peut devenir le seuil qui introduit dans cet océan de miséricorde où toute larme est essuyée. Comme l'enseigne saint Jean-Paul II dans Salvici Doloris, la souffrance est appelée à servir la conversion, c'est-à-dire à la reconstruction du bien dans le sujet. Cette belle affirmation nous révèle le sens le plus profond de la souffrance. Lorsqu'elle est accueillie dans la foi, elle devient un lieu privilégié de transformation intérieure et de restauration de la vie. C'est pourquoi saint Paul, l'apôtre des nations, peut affirmer avec une assurance pleine d'espérance, « L'espérance ne déçoit pas ». Ainsi, loin d'être une impasse ou une fin en soi, la souffrance peut se transformer en un chemin ouvert vers la joie de la résurrection, cette espérance vive qui ne trompe jamais. Amen.